Bonsoir, bienvenue à ce mardi d'éthique publique, ce premier mardi d'éthique publique de l'année civile, qui aura pour thème « Élections, les chrétiens face aux extrêmes ». À l'approche des élections, les sondages révèlent une progression des partis populistes et extrémistes, de droite comme de gauche. Cette évolution qui n'est pas propre à la France, l'extrême droite est au pouvoir en Italie, elle progresse en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et dans de nombreux autres pays européens, sans compter les États-Unis, l'Argentine ou le Chili. En France, cette évolution pourrait placer les électeurs de la prochaine présidentielle au premier semestre 2027, donc dans un peu plus d'un an, devant un choix inédit, départager deux candidats issus de ces courants. Comment comprendre ce phénomène ? Et surtout, comment le chrétien peut-il y répondre? La radicalité de la foi se distingue-t-elle des radicalités politiques? Quels repères éthiques peuvent guider un vote en conscience entre responsabilité citoyenne et fidélité à l'Évangile? Ce mardi des publics propose d'explorer ces questions, donc avec mon ancienne collègue Isabelle de Gaumin, présidente des Semaines sociales de France, et membre du Comité national consultatif d'éthique, qui a réalisé une émission qui sera particulièrement intéressante pour notre débat sur France Culture, en 4 épisodes, intitulée « Catholique de France, la tentation radicale ». Nous avons aussi la chance d'avoir Yann Raison du Closiou, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, et chercheur au Centre Émile Durkheim du CNRS. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique et de la sociologie du catholicisme français. Et enfin, le régional de l'étape, Grégoire Cata, jésuite, docteur en théologie et maître de conférence aux facultés de Loyola Paris du Centre Sèvres, donc ces facultés ici, vous donnez des cours ici. Je propose qu'on commence avec vous, Yann, sur le cadrage du débat. Comment expliquer la montée des partis populistes et extrémistes en France aujourd'hui? Et les chrétiens français suivent-ils cette tendance ou résistent-ils davantage à ces votes? Que disent les études sur leurs comportements électoraux? Et est-ce que les extrêmes séduisent par des valeurs identitaires qui peuvent entrer en résonance avec certaines sensibilités chrétiennes? Comment analyser ce phénomène?
Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre invitation. Alors, les questions que vous posez d'emblée, elles sont déjà très vastes. Je ne vais peut-être pas y répondre tout de suite, mais je vais vous faire un point de sociologie électorale. C'est extrêmement prosaïque, mais ça permet un peu d'objectiver les tendances sans les fantasmer. Alors, le vote catholique, il est bien connu en sociologie électorale depuis les années 70 et depuis un ouvrage devenu un classique de Guy Michla et Michel Simon qui s'intitule « Classe, religion et comportement politique ». C'est un ouvrage qui paraît en 1977, quelques temps après que les évêques aient célébré et noté le pluralisme des catholiques et légitimé le pluralisme politique des catholiques et légitimé celui-ci. Bon, Guy Michla et Michel Simon montrent que ce pluralisme catholique, c'est un peu, il existe, mais c'est en partie quand même un fantasme de clercs, et que, d'un point de vue de sociologie électorale, les catholiques votent massivement pour la droite de gouvernement, et cela de manière stable d'une élection à une autre. Premier constat, donc, de sociologie électorale, l'électorat catholique vote pour la droite de gouvernement sous la Ve République de manière stable. Second constat qu'ils font, sur qui faut-il travailler quand on s'intéresse sur l'électorat catholique? Ce n'est absolument pas sur l'intégralité des Français qui se déclarent catholiques. Parce que dans ce cas, dans les années 70, on serait à des hauteurs de 75%. Non. On ne peut parler d'électorat catholique que pour les pratiquants réguliers, ceux qui vont à la messe au moins une fois par mois, parce que sociologiquement, on observe que ce sont eux qui ont tendance à voter en tant que catholiques. Les autres, les moins pratiquants, ils ont tendance à voter en tant que citoyens en fonction d'autres appartenances, mais, sauf exception, ça n'est pas leur appartenance religieuse qui prime. À partir des années 80, il y a un nouvel acteur qui entre dans le spectre des droites, c'est le Front National, qu'observent Guy Michelat et Michel Simon, qui actualisent régulièrement leurs études. Eh bien, c'est que les pratiquants réguliers votent moins que le reste des Français pour le Front National. C'est un des groupes au sein des droites qui résiste le mieux au vote extrémiste. Au contraire, des pratiquants irréguliers et des non-pratiquants qui ont tendance à voter au-delà, au-dessus des moyennes nationales pour le Front National. Ce qui signifie que on peut interpréter le vote en faveur du Front National comme un indice de sécularisation et même comme un indice de détachement religieux. Voilà les grands constats de sociologie électorale qui ont été répétés dans toutes les introductions de cours de sciences politiques jusqu'à peu de temps. En effet, prenons les élections récentes. C'est les tendances, mettons depuis 2007, les tendances observées par Guy Michelat et Michel Simon se confirment. En 2007, à l'élection présidentielle au premier tour, eh bien, c'est Nicolas Sarkozy qui est en tête avec 49% des pratiquants réguliers, suivi par François Bayrou, 15%, suivi par Ségolène Royal à 12%, puis Philippe de Villiers, 6%, et le vote Front National à 6% également. 2012, les choses changent peu. On a Nicolas Sarkozy à 47%, augmentation en faveur du vote Le Pen, 15%, mais il n'y a pas Philippe de Villiers, bon. 17% en faveur de François Bayrou. En 2017, malgré un contexte d'élection présidentielle assez particulier en raison du scandale du Penelope Gate, eh bien, François Fillon obtient encore un excellent score parmi les pratiquants réguliers et même un score supérieur à celui de Nicolas Sarkozy, ce qui est bien dit, 55% au premier tour, ce qui montre bien cet ancrage des pratiquants réguliers pour la droite de gouvernement. Mais depuis, il y a un changement. Ce changement, on l'observe en 2022. Le candidat qui arrive en tête du vote des pratiquants réguliers, c'est Emmanuel Macron. Mais il arrive en tête avec 25%. Il n'y a quasiment jamais eu dans cet électorat un candidat qui ait obtenu un succès si modeste. D'autant plus que ce vote en faveur d'Emmanuel Macron bénéficie de votes de gauche comme de droite. En seconde position, c'est Marine Le Pen à 21% chez les pratiquants réguliers, ce qui reste en deçà des moyennes nationales. Et je ne souscris pas à ceux qui considèrent que dans le rapport au Front National, il y aurait la digue, la fameuse digue, on aime les métaphores, que la digue aurait lâché. Non, il y a une tendance qui monte, mais il y a toujours statistiquement une réserve à l'égard du Front National qui s'objective. En revanche, si on peut parler d'une droitisation, d'un durcissement du vote, on le trouve avec le vote en faveur d'Éric Zemmour, qui est à 16% parmi les pratiquants réguliers, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale. Donc là, il y a une réactivité catholique particulière, qui est bien signe de quelque chose. Et d'autant plus qu'un sondage de la vie avait montré que ceux qui avaient tendance à voter pour Éric Zemmour sont ceux qui avaient tendance à accorder le plus d'importance à leur foi au moment de voter. Donc, Là, ce vote extrémiste n'est pas un indice de détachement religieux comme le fut le vote en faveur du FN, mais c'est plutôt vraiment aussi un indice d'un changement, d'un durcissement spécifiquement religieux. En 2022, Valérie Pécresse obtenait 9%, ce qui est une vraie débandade pour la droite de gouvernement dans l'électorat qui a assuré sa stabilité pendant la Ve République. Alors, maintenant, se pose un certain nombre de questions dont on va discuter. Est-ce que ce qui se passe en 2022, est-ce un événement exceptionnel? Parce que si on additionne Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, on obtient environ 40% de votes contestataires au premier tour, à l'élection présidentielle, dans un électorat qui, au contraire, stabilisait les droites et jouait en faveur de la modération dans le rapport de force interne aux droites de gouvernement. Donc, s'agit-il d'un événement exceptionnel qui peut être lié au choix de Valérie Pécresse, au choix tactique des Républicains, aux suites de l'affaire Fillon, à des règlements de compte internes, à LR, qui était le parti qui captait le vote des conservateurs, ou s'agit-il d'une tendance plus durable? Je veux juste rajouter un élément, c'est que l'accroissement, enfin le moment où on voit l'électorat des pratiquants réguliers qui commence à bouger en faveur du Rassemblement national, on entend parfois que ça succède à la Manif pour tous. C'est faux. Ça se repère très nettement, et c'est une tendance qui traverse, qui n'est pas propre aux catholiques, ça se repère très nettement à partir des régionales de 2015, en plein dans la vague d'attentats islamistes dont vous vous souvenez. Et donc, il faut bien faire attention à la chronologie pour ne pas introduire des interprétations abusives.
Merci beaucoup. Isabelle, alors vous avez intitulé les quatre épisodes de votre émission sur France Culture, Catholique de France, la tentation radicale. Et Yann vient de nous dire, on ne peut pas dire que la digue a lâché. Donc il y a une tension entre vous, manifestement.
Comme ça, là, ça va. Oui. En fait, ça dépend de ce qu'on regarde. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément regardé le vote politique des catholiques, mais plutôt la manière dont, dans le catholicisme, s'exprimait de plus en plus de tensions, de radicalité ou d'extrémisme à l'intérieur du catholicisme. Donc, c'est un peu différent. Et c'est vrai que peut-être que je suis un peu plus pessimiste que Yann sur un certain nombre d'évolutions, de constats qu'on peut faire dans le catholicisme, en tout cas dans ce que moi je peux voir à la fois comme journaliste, comme président des semaines sociales, etc. Et en fait, ça m'attriste, ça me fait mal en fait de voir une certaine évolution du catholicisme aujourd'hui. Mais c'est une évolution qui est pas propre à la France. Et ça, peut-être qu'il faudrait qu'on le rappelle assez rapidement. C'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Alain Dickhoff, enfin géré par Alain Dickhoff, sur les radicalités, radicalités religieuses au cœur d'une mutation mondiale. C'est assez intéressant parce qu'en fait, il en fait un problème mondial et religieux en général et pas que catholique. Et lui, il voit deux formes de radicalité. Une radicalité qui consiste à sortir du monde, se consolider dans des petits bastions. C'est un peu, vous savez, c'est le livre « Le Paris bénédictin » de Rod Dreher, qui est le grand inspirateur de Vance, et qui...
Donc le vice-président américain.
Le vice-président américain, et qui, lui, préconise effectivement une vision du catholicisme comme des bénédictins, des minorités actives, mais contre-culturelles, en quelque sorte. Et puis une deuxième forme de radicalité qui est peut-être moins présente dans le catholicisme en France, qui serait une tentation de vouloir imposer la religion, sa religion, donc en l'occurrence le catholicisme, le christianisme, au niveau politique, ce qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'entourage de Trump. Voilà. Je pense qu'en France, on n'en est pas là. Et puis, de toute façon, le rapport avec la laïcité, c'est un peu différent. Donc, je vois mal un candidat aux élections dire qu'il veut faire une république chrétienne en France. À mon avis, ça marcherait pas. Mais par contre, c'est vrai que du coup, on observe quand même. Alors, c'est une minorité, c'est vrai. C'est absolument pas la majorité des catholiques. Mais on observe quand même Est-ce que c'est une dérive, en tout cas, est-ce que voilà une tension radicale dans le catholicisme français? Moi, c'est vrai que j'ai commencé mon podcast à Chartres, où c'est très impressionnant, Chartres, au pèlerinage traditionnaliste, qui n'est donc pas le pèlerinage intégriste. C'est le pèlerinage qui se reconnaît dans l'Église catholique, quand même. Bon, là, vous avez 20 000 jeunes, donc c'est quelque chose de très impressionnant. C'est vrai qu'on aurait tous envie d'avoir 20 000 jeunes comme ça. Et 20 000 jeunes qui, alors c'est pas du tout, ils sont pas eux-mêmes entre guillemets fascistes ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'ils ont une vision de la religion qui semble d'ailleurs une vision d'autrefois et qui est une vision très contre-culturelle. Et ils sont quand même très nombreux et ils sont de plus en plus nombreux. Voilà, ils sont en soi, ils sont pas antipathiques ces jeunes, ils sont plutôt sympathiques d'ailleurs. Mais quand on discute avec eux, alors il y en a qui vous disent ah oui moi je suis là parce que là, c'est la vraie religion. D'ailleurs, je marche sur les pas de Saint-Louis. Et je prie comme Saint-Louis. Alors, j'essaie de leur dire quand même que le rite Saint-Pie-V, c'est pas vraiment Saint-Louis. Mais et puis d'autres, au contraire, il y a quand même toute une vision du monde mauvais qu'il faut combattre, que nous, chrétiens, devons combattre, et un danger pour la civilisation chrétienne occidentale. Alors, c'est pas forcément tous ces jeunes qui le disent, mais en tout cas les organisateurs, c'est vraiment ça. Et vous avez un haut-parleur qui vous dit tout le temps, ben voilà, le monde est mauvais, c'est horrible, les lois, alors les lois bioéthiques, les lois sur la scolarité, les lois, voilà, on est sans arrêt dans cette espèce de, voilà. Et c'est vrai que, voilà, moi c'est vrai que j'ai le sentiment quand même qu'on a une religion qui devient un peu folklorique, si on est le plus positif, ou sinon une espèce de comment dire, d'accentuation qui est mise sur la piété, mais la piété qui est vue comme une sorte de performance. Voilà, il faut prier vraiment très fort. Alors il y a toujours ça dans le pèlerinage, hein, c'est traditionnel d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment très fort, et finalement, plus on est catholique, plus on est dans une espèce de performance de comme ça, de démonstration, de sacralisation, et qui on peut quand même se demander s'il n'y a pas une forme d'ensauvagement, je dirais même, de la religion catholique. C'est-à-dire que, comme on est aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus du tout de culture catholique, ça c'est la laïcité à la française qui a quand même abouti à ça assez rapidement, bah, on met un peu n'importe quoi derrière cette espèce de prouesse, de prière, etc. Et en fait, on oublie de réfléchir, on oublie de regarder le monde. Et ça, moi, c'est vrai que je trouve ça dangereux. Alors après, mais ce serait peut-être trop long de le développer là, je crois que il faut quand même entendre ce radicalisme ou cet extrémisme qui s'exprime aujourd'hui dans la religion catholique, notamment en France, dans beaucoup de paroisses aussi. Moi, je vais parfois voir des groupes de jeunes et je suis toujours étonné de leur vision. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu des jeunes professionnels, ils m'ont dit « Mais pourquoi, Semaine sociale, vous avez traité de l'intelligence artificielle ?»« L'intelligence artificielle, c'est mon boulot, mais c'est pas ma religion. C'est pas un problème de la religion. » Voilà, donc on a souvent l'impression de pas être sur la même religion, quoi. Je trouve ça assez compliqué. Et c'est vrai que je trouve quand même qu'il faut entendre ces mouvements extrêmes qui s'expriment pas seulement en France, mais aux États-Unis, je l'ai dit, qui s'expriment aussi en Hongrie, qui s'expriment en Pologne, qui sont en Italie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur notre manière d'être catholique? Et moi, je trouve que on en reparlera peut-être après. C'est que je pense que ce que, en tout cas, nous essayons d'être, notamment par exemple aux Semaines sociales de France, c'est-à-dire cet engagement pour un catholicisme social, un catholicisme dans la cité, etc., doit aujourd'hui quand même pas mal se remettre en cause, parce que ces critiques-là qui sont adressées par ces catholiques plus extrêmes, plus radicaux, eh ben finalement, elles font qu'on est obligé de changer quand même nous aussi notre manière d'être catholique dans la société. On peut plus être catholique dans la société comme avant, comme dans les années 60, comme dans les années 70, comme ce catholicisme qui moi m'a dans lequel j'ai baigné et qui explique ce que je suis aujourd'hui. Et je crois que ça, voilà, ça nous oblige à changer et à revoir un certain nombre de notions et revoir finalement réactualiser la doctrine sociale en tenant compte de ces critiques. Voilà, mais peut-être que j'irai après.
Yann ? Oui, je suis tenté de réagir tout de suite parce qu'on est dans des éléments de cadrage. Et donc c'est vrai que sur la question de la radicalisation, moi je suis parti sur les élections parce que c'était le titre. Mais Isabelle parle de quelque chose qui est pour moi un petit peu différent et je pense qu'il faut distinguer les plans. On a une dynamique, donc, électorale dont j'ai parlé. Par ailleurs, il y a une autre tendance qu'on peut objectiver, que moi je vais appeler la désécularisation interne du catholicisme, c'est-à-dire que l'ambiance interne du catholicisme change. Ce que tu as décrit. Et ça, on ne peut pas le penser indépendamment de la sécularisation de la société. Il faut tout le temps penser les deux ensemble, parce qu'on ne peut pas parler de radicalisation catholique sans penser le référentiel par rapport auquel on juge cette radicalisation. Or, s'il y a un changement interne du catholicisme, il est causé par la sécularisation, parce que la sécularisation a opéré une sélection parmi les catholiques, ce dont on se rencontre aujourd'hui. Au fur et à mesure que le catholicisme devient minoritaire, eh bien le catholicisme se recompose sur ce qui reste. Or, dans le pluralisme interne au catholicisme, eh bien il y a des univers de sensibilité qui résistent mieux à la sécularisation et d'autres qui sont pris dans la sécularisation et tendanciellement se détachent. Ce qui fait que le catholicisme se recompose tendanciellement sur ceux qui sont plus conservateurs, qui accordent plus d'importance à la pratique pensée comme une forme d'ascèse, c'est-à-dire que les disciplines et les observances ne valent pas en tant que telles, mais elles valent comme une manière de se vider de soi pour s'emplir de Dieu. Bien. Et donc, on a, tout ça joue sur le recrutement du clergé, donc on a des liturgies qui aujourd'hui, ont une dimension plus hiératique qu'auparavant, etc. Et ça n'est pas un retour du passé. Non, mais... C'est une manifestation de la culture contemporaine. Pourquoi ? Parce qu'on a la même tendance dans le judaïsme, dans l'islam, dans les protestantismes. Et tout ça, toutes ces recompositions, elles s'expliquent comme des formes à la fois de conséquences, en raison de cette sélection par la sécularisation, et comme des résistances à une sécularité qui est aujourd'hui dominante. Et quand on pense la radicalisation religieuse, on ne peut le faire, selon moi, sans penser la radicalisation séculière, avec une laïcité de plus en plus dure, des évolutions sociétales, etc., une régression des droits accordés à la conscience, qui font que le religieux se recomposant sur les plus conservateurs, la tension entre un monde séculier dominant et un univers religieux qui se recompose est de plus en plus grande. Mais il faut penser cette tension. Parce que sinon, si on parle de radicalité sans penser cette tension, on adopte les valeurs et un regard séculier sur le religieux sans l'objectiver. Et voilà, à mon sens, ça crée un biais.
Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est toute la thèse de Dickhoff qui dit que justement, notamment sur le catholicisme, finalement, aujourd'hui, le catholicisme, il est presque minoritaire partout. Et du coup, les catholiques se vivent en minoritaire. Et du coup, ils ont une tendance à être plus sur une défense de leur religion que dans une ouverture au monde. Donc ça je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène politique, c'est-à-dire que c'est pas simplement que les bastions conservateurs transmettent mieux, ce qui est vrai, mais c'est aussi que, en tout cas, franchement, à Chartres, c'était évident, c'est aussi que les jeunes aujourd'hui sont attirés par des formes plus dures de religion, et quand même, politiquement, honnêtement, c'était quand même très très à droite. Et donc il faut pas non plus se cacher derrière
le pèlerinage de Chartres.
Mais ça marche très très bien. Je veux dire, ils sont 5000 de plus chaque année et avec des gens qui viennent des cités.
Des jeunes qui sont de culture dont les parents sont eux-mêmes catholiques ou sont plutôt des convertis.
Ceux qui sont intéressants, c'est justement ceux qui sont attirés par ce type d'une religion qui est à la fois très effectivement très démonstrative, et ça pourquoi pas, mais aussi quand même qui a une vision extrêmement autoritaire et qui est dans une... C'est un problème de rapport au monde, en fait. Et c'est ça qui nous interroge. Mais je suis complètement d'accord sur la sécularisation et sur le fait que cette radicalisation s'explique par la sécularisation et par le fait minoritaire. Ça c'est évident.
Juste un point, Vincent, pour vous répondre. Effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les rangs des traditionalistes se renouvellent, parce que pendant longtemps, c'était des univers de familles, finalement, relativement stables, qui s'inscrivaient dans les suites de la conflictualité liée au concile ou à la pastorale post-conciliaire. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un recrutement venu de personnes non-croyantes, de catholiques non pratiquants ou de non catholiques. Tout à fait. Et la dimension contre-culturelle accroche. C'est vrai.
On va peut-être passer à vous, Grégoire. Est-ce que la radicalité de l'évangile, justice, fraternité, dignité humaine, peut être un antidote à la radicalité politique?
Bonne question. Enfin, je pense que ça invite à repréciser ce qu'on va entendre par radicalité. Moi, par rapport à ces questions, mon approche, évidemment, est située sur un autre plan. Je parle comme théologien, comme dans le domaine de la morale sociale, de la doctrine sociale de l'Église, donc essayant de donner des repères pour se situer par rapport à cette question, quoi. Comment les chrétiens, comment comme chrétiens, on peut se situer par rapport à tous ces défis. Et donc c'est vraiment une question, voilà, où sont les repères, quoi. Voilà. Donc c'est une question qui est autre que la question de décrire le au niveau sociologique, quoi, ou de répondre aux interpellations. Je ferai quelques remarques. D'abord, par rapport à ce phénomène, la première chose qui m'est venue, c'est de rappeler quand même que ce à quoi on est invité comme chrétiens, comme ceux qui suivent le Christ, comme catholiques, quoi. J'aime bien une expression qu'a employé le pape François, d'être rusé selon l'Évangile, quoi. C'est-à-dire d'être alerte, attentif, prêt à discerner ce qui se passe, et pas simplement, c'est pas parce qu'on est croyant que d'un seul coup il y a une solution simpliste qui va s'imposer, une réaction à avoir, et on va tous avoir la même. Non, il s'agit de faire travailler la raison, et on lit ailleurs dans l'Évangile, hein, d'être prudent comme des serpents et en même temps candide comme des colombes, quoi. Voilà. Donc cette attitude-là, je pense, par rapport à ce phénomène-là, elle est importante à rappeler, parce que ça m'amène à ma deuxième remarque, c'est que les chrétiens, une partie des chrétiens, peut-être nous ici, on peut être tenté par le désengagement, quoi, le désengagement du politique. Et c'est aussi une question parfois à d'autres niveaux pour aussi les jeunes. Enfin, voilà, quoi, de dire, ben, il y a des choses, ça c'est pas du domaine de la religion, ou ça, c'est, voilà, le vote, ça concerne pas, voilà. Toute la tradition quand même de récente, et pas que récente, de l'enseignement social de l'Église invite les catholiques à résister à cette forme de désengagement. Au contraire, la politique, c'est la plus haute forme de charité, va dire Pie XI, et puis il est repris par quasiment tous ses successeurs. Rester en dehors du champ politique, c'est pas une solution pour nous. Rester en dehors du vote, rester en dehors de cette nécessité d'articuler, même si on a à faire face peut-être, ça sera à voir entre deux extrêmes. Benoît XVI disait dans Deus Caritas Est en 2005, l'Église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible. C'est étonnant, on se dit, bah du coup, on ne doit pas rentrer dedans. Peut-être parce qu'à ce moment-là, il pense dans cette phrase-là à l'Église en termes d'institution. Mais immédiatement après, l'Église ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'État, mais l'Église ne peut ni ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Elle doit s'insérer en elle par la voie de l'argumentation rationnelle et doit réveiller les forces spirituelles. Voilà, on ne peut pas se désengager. Jean-Paul II avait dit, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique. Voilà, ou le Concile Vatican II, que tous les citoyens se souviennent donc à la fois du droit et du devoir qu'ils ont d'user de leur libre suffrage en vue du bien commun. Voilà, quand on est face à cette question telle qu'elle a été posée pour la soirée de ce soir, de faire face à deux extrêmes, je pense que c'est un repère indispensable. Alors, ça m'invite à ma troisième remarque, c'est que poser le regard de manière raisonnable et en étant rusé selon l'Évangile sur la situation de la réalité d'aujourd'hui, c'est sans doute aussi reconnaître que par rapport aux défis qu'on a, tout ne se vaut pas. L'expression de dire on est face à deux extrêmes, en fait, est très réductrice, quoi. Et là, je vais m'appuyer tout simplement les évêques allemands qui font face à une situation qui est, sur certains points, est similaire à la nôtre, évidemment avec une autre histoire, avec une autre tradition, avec un autre système politique. Mais ils ont pris la parole il y a 2 ans pour dire de manière assez forte, affirmer que le nationalisme, alors qu'ils appellent le Völklich, ça a été traduit en français par nationaliste racial, enfin voilà, faut comprendre, voilà, un nationalisme à cause de l'identité presque ethnique, on va dire, et christianisme ne sont pas compatibles. Et ils disent clairement que il y a quelque chose de pas compatible entre eux. Ils l'expriment dans leurs documents. Ils parlent directement de l'AFD, du parti d'extrême droite allemand. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils parlent des extrêmes. Ils disent cela. Au cours du XXe siècle, l'Allemagne et l'Europe ont connu l'ascension et la chute de plusieurs idéologies et mouvements extrémistes. Leurs conséquences catastrophiques nous incitent encore aujourd'hui à la vigilance. C'est pourquoi l'Église rejette avec force toutes les formes d'extrémisme. Donc le rejet des extrémistes. Elles constituent des menaces irresponsables pour le bien commun et l'ordre libéral, on pourrait dire l'ordre des libertés. À l'heure actuelle, l'extrémisme de droite représente la plus grande menace extrémiste pour notre pays et pour l'Europe. Voilà. Le rejet des extrémistes est en même temps un regard clair sur ce qui est le danger. Et du coup, ils peuvent ajouter un peu plus loin, ce qui est aussi intéressant comme repère pour savoir comment on se situe par rapport aux extrêmes. Afin d'éviter tout malentendu, le vote clair contre toute forme d'extrémisme de droite ne signifie en aucun cas que l'Église se soustraira au dialogue avec les personnes qui sont sensibles à cette idéologie, mais disposées à discuter. Même les thèses radicales doivent être discutées, mais elles doivent aussi être démasquées. Voilà. Donc, voilà, un repère intéressant. Alors, je vais venir très rapidement sur d'autres types de repères. Évidemment, la radicalité de l'Évangile, quoi. C'est ça, quand on va aller voter, quand on prend des options politiques, on le fait en chrétien, pour reprendre la formule de Maritain, parce que notre foi, on ne peut pas se couper en deux. Et donc forcément, notre foi a un rôle dans les choix qu'on fait. Et on peut avoir comme repère, évidemment, les repères de la doctrine sociale de l'Église là-dessus. Ils nous sont donnés notamment par le dernier grand texte où on parle des rapports... des catholiques, enfin le rapport de la foi aux politiques, c'est Fratelli Tutti du pape François qui consacre tout un chapitre sur la bonne politique. Et ce qu'il nous donne en exemple, c'est la parabole du bon samaritain. Voilà, ça peut nous éclairer. Le passage de la question à qui est mon prochain, donc il y aurait certains qui seraient mon prochain, d'autres qui seraient pas, et on met la société en case et on essaye de voir dans quelle case je suis. Et on voit comment tout un discours politique va dans ce sens-là. Et on passe de ça à de qui est-ce que je suis le prochain, de qui est-ce qui a besoin de moi. Et le Samaritain, c'est ce qu'il fait, il se laisse toucher par le blessé au bord de la route. Donc le changement de la question est quelque chose de fondamental. Et puis on pourrait ajouter aussi la notion que, à la fois dans la parabole du bon samaritain, c'est une dimension personnelle, mais en même temps, le bon samaritain, il a besoin de l'auberge, il a besoin des sous qu'il donne à l'aubergiste. Donc, voilà, l'engagement dans le sens politique, c'est pas simplement un engagement personnel, mais c'est aussi pour changer les institutions. On connaît les repères que l'Église nous donne, la solidarité, la subsidiarité, la question des institutions justes, la primauté du droit, tout ça c'est redit dans le chapitre 5 de Fratelli Tutti. Mais au cœur de tout ça, finalement, il y a des principes sur lesquels on peut pas s'asseoir, qui nous donnent des repères pour après faire le discernement plus stratégique des options politiques que nous allons prendre. Les repères ne donnent pas directement la solution politique, ils disent pas de voter pour tel ou tel parti, mais on doit toujours les avoir en face de soi. Le respect de la dignité humaine, la recherche du bien commun, qui sera forcément un bien commun, comme dit le pape Benoît XVI, le bien de toute la famille humaine. Ça peut jamais être un bien commun simplement particulier, c'est universel. L'option préférentielle pour les pauvres, le soin de la maison commune. Voilà. Donc ça, c'est des repères. Peut-être de manière plus encore plus forte aujourd'hui, il faut rappeler un repère important pour nous les chrétiens, c'est ce qui touche à notre rapport à la démocratie et à l'état de droit. Alors, le rapport de l'Église à la démocratie, on sait bien que pendant longtemps, l'Église a eu un discours qui paraissait contraire aux principes, à certains principes de la démocratie libérale. Les temps ont évolué et puis c'est surtout que ce qu'on peut dire de l'Église sur la démocratie quand on reprend Gaudium et Spes, quand on reprend aussi le pape Pie XII, c'est que plus qu'une manière de s'approprier complètement quelque chose qui lui serait extérieur, l'Église propose une vision de ce qu'est une démocratie, de ce qu'est une bonne démocratie, et dit voilà, ça c'est maintenant le système politique, le régime politique, la forme de gouvernement qui est la plus appropriée. Ça, c'est les mots de Pie XII en 1944. Il parle de la forme démocratique de gouvernement qui apparaît à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même. Donc, dans le langage de Pie XII, c'est de dire, ben voilà, ça, c'est quelque chose vers lequel on doit s'orienter. Et dans Gaudium et Spes, on parle pas, le mot démocratie n'apparaît pas, mais qu'est-ce qu'on met en avant? La nécessité pour un régime qui soit orienté vers le bien commun et conforme à la fois à la loi naturelle et à la loi de l'Évangile. On parle des libertés, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, la participation de toutes et tous dans la gestion des affaires publiques, selon des modalités diverses, la protection des droits des personnes, fondée sur la dignité humaine, le refus et la lutte contre les totalitarismes, l'acceptation du pluralisme politique. Tout ça, c'est, il y a quatre paragraphes dans Gaudium et Spes, c'est pas très long à relire, quoi, hein, des numéros 73 à 76, en fait, dit tout cela. Et puis, la nécessité d'un droit positif pour une répartition des organes de pouvoir et la protection des droits des personnes, formule un peu compliquée, mais enfin, en fait, par derrière, on a ce que nous mettons sous l'intitulé état de droit. Voilà, repère aussi intéressant à mettre pour aujourd'hui. De manière très brève, je terminerai avec un dernier repère, c'est de réfléchir à l'articulation entre, quel repère nous donne aussi la doctrine sociale de l'Église, l'articulation entre l'usage des symboles et des références chrétiennes au sein du débat politique. Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On sait que d'un côté, il peut y avoir une instrumentalisation de ces symboles chrétiens, d'un certain discours sur la civilisation chrétienne, voilà, à des fins politiques. Et ça, il y a une réaction qu'on doit avoir. L'exemple le meilleur étant celui du cardinal Lustiger, qui en 2002, après le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand Jean-Marie Le Pen déclare à la télévision « N'ayez pas peur, entrez dans l'espérance », immédiatement, le cardinal Lustiger va dire « C'est pas possible d'utiliser des paroles de l'Évangile et des références religieuses pour un programme politique d'une manière générale, et encore plus le programme politique du FN. » Donc il y a cette réaction. Ça, c'est le type de réaction qu'on devrait tous avoir chaque fois que on voit des principes religieux instrumentalisés au profit d'une orientation, d'un programme politique. Mais après, on peut aussi se poser la question de quelle manière, en tant que chrétien, on peut et on doit exprimer notre foi, puisque je l'ai dit au début, l'Église nous invite à dans toutes nos actions, quoi, à agir aussi en chrétien, quoi. Peut-être que l'orientation aujourd'hui, puisqu'il est quand même bon de pouvoir dire d'où on vient et ce qu'on fait, donc c'est pas illégitime de dire je vote pour telle chose au nom de ma foi, mais peut-être que il serait plus ajusté de dire au nom de ce que je lis dans l'Évangile, au nom de ma compréhension de l'Évangile, voilà quelle est ma position, plutôt que de dire d'une manière plus abrupte et d'une manière plus forte, l'Évangile nous dit de voter en telle ou telle direction. Et à ce moment-là, on sera plus en adéquation avec ce à quoi invite Gaudium et Spes, le Concile Vatican II, de dire que, bien sûr, pour les chrétiens, c'est leur vision chrétienne qui doit les incliner à agir de telle et telle manière, y compris en politique. Cependant, personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive pour son opinion l'autorité de l'Église, on pourrait ajouter l'autorité de l'Évangile. Voilà. Et Yann évoquait ce texte des évêques français qui en 1972 parlait reconnaissait la nécessité d'un pluralisme inconfortable. Alors certes, le pluralisme il existait en fait dans l'Église, mais avec des proportions quand même très différentes, une grosse masse à droite. Mais enfin, voilà, quand on entend l'histoire, il y avait quand même l'émergence, quoi, de catholiques de gauche et certains, enfin pas l'émergence, le maintien et une vraie présence. Et puis alors du coup, avec des clivages quand même dans l'Église assez fortes, quoi. Ceux qui se rapprochaient du Parti communiste, voilà, pas forcément facile de communier le dimanche à la même messe avec d'autres. Et les évêques, du coup, rappelaient que dans ce contexte, ce qui peut être des situations que nous vivons, ils rappelaient dans ce contexte conflictuel, la stricte honnêteté, tout comme la fidélité à l'Évangile, demande que, loin de s'anathématiser, de se lancer des anathèmes à la figure, les adversaires ne s'ignorent pas. Mais en même temps, ils rappelaient aussi, donc il y a une pluralité, quoi, possible. Mais ils rappelaient que la Bible manifeste un certain nombre d'exigences éthiques, des exigences éthiques, pas des choix politiques directement, il va falloir passer de l'éthique au politique, qui sont tracés de la façon tout à fait nette. Et là, on retrouvait une liste dans lequel on peut se retrouver encore aujourd'hui, même s'il faudrait ajouter peut-être d'autres choses, le respect des pauvres, la défense des faibles, la protection des étrangers, l'exercice de toute autorité comme service, le renversement des pouvoirs totalitaires, la condamnation de la domination exercée par l'agent, la suspicion de la richesse.
Isabelle ?
Oui, moi je suis d'accord effectivement avec cette intention de revisiter comme ça là, ce qu'on peut dire à la lumière de l'évangile de la situation sociale et politique. J'ai quand même le sentiment qu'on peut pas on peut pas reprendre les choses des années 70. Enfin, le monde a quand même sacrément changé. Et moi, il me semble que comme catholique, notre manière de répondre peut-être à cette montée des extrêmes, c'est aussi un peu de retravailler nos propres notions. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce qu'on voit aux États-Unis et en partie aussi en France, en Europe, etc., c'est qu'il y a quand même une très forte critique du libéralisme. Et c'est de ça qu'est né. Et en fait, tout le mouvement aujourd'hui qui donne le Trumpisme, paradoxalement, il est né quand même du côté catholique, d'une critique du libéralisme qui était en soi intéressante. Par exemple, le Paris bénédictin de Dreher, c'est quand même intéressant aussi. Et il me semble que nous, on a un peu vécu sur... comme un fait acquis que le libéralisme politique c'était formidable depuis la Seconde Guerre mondiale, finalement c'était le système d'organisation le mieux, et on a perdu cet esprit critique par rapport pas simplement aux excès du libéralisme mais à ce que ça peut faire par rapport aux corps intermédiaires, par exemple par rapport à
du libéralisme politique ou libéralisme économique.
En fait, politique économique, voilà, le libéralisme tel que le modèle européen qui est aussi un modèle quand même aussi social, mais enfin c'est quand même un modèle qui est basé sur un état neutre, sur les droits de chaque individu et l'émancipation de l'individu par des droits. Et c'est vrai que il me semble qu'aujourd'hui, enfin en tout cas moi je le prends pour moi, comme catholique on a un peu manqué ça, cette critique du libéralisme que faisait par exemple le pape François, mais que je pense qu'on peut revisiter et revoir en quoi ce système aujourd'hui, enfin ce système a abouti quand même à une parcellisation, à un individualisme forcené. Moi, je le vis évidemment au CCNE, très fort. Parce qu'au CCNE,
comité
consultatif d'éthique, national d'éthique, on voit que finalement, c'est la grande tendance, c'est quand même le droit de chaque individu à faire ce qu'il veut. Voilà. Et que finalement, la parole culte au CCNE pour finir une discussion, c'est une demande sociétale. Voilà. Si c'est une demande sociétale, ok, il n'y a plus rien à dire. Les couples veulent maintenant, aujourd'hui tous, avoir des tests génétiques sanguins pour le futur bébé, pour savoir exactement tout ce qu'il aura comme maladie. C'est une demande sociétale. Et je trouve qu'on a, on n'a pas été assez, me semble-t-il, il faudrait aujourd'hui retravailler ça. Voilà. Comment est-ce qu'on peut critiquer le libéralisme sans tomber une dictature, l'autoritarisme ou le populisme, mais je trouve que ça serait intéressant. De même qu'il y a une autre notion qui est bien amenée aussi par Fratelli Tutti, c'est l'universalisme. Et là, c'est quand même intéressant parce que ce pape, finalement, pour moi en tout cas, ce qui est le plus intéressant dans Fratelli Tutti, c'est cette vision du monde. C'est cette vision du monde, du monde global, de la globalisation. Et comment est-ce qu'on se débrouille, nous, avec la globalisation? Et comment on se débrouille pour considérer tout un chacun comme notre frère? Et comment ça ne va pas de soi? Voilà. Donc lui, il nous dit par la fraternité sociale, par l'amitié sociale, la fraternité universelle, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'universalisme? Effectivement, dans un catholique qui se veut universel, hein, c'est la définition même, mais qui aujourd'hui a tendance à construire un bien commun qui est tout sauf universel. Donc il y a une tension là, je trouve, qu'il faudrait retravailler. Sans naïveté complètement, sans dire la solution c'est l'hospitalité totale, etc., sans inconditionnel, non, pas forcément. Voilà, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui retravailler cette notion d'universalisme comme chrétien, de façon à répondre à ces frontières qui se remettent, à ces migrants qu'on rejette, à tous ces droits des gens qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui au-delà de nos frontières. Et je trouve que ça serait intéressant de retravailler ça. Donc pour moi, il faut évidemment rappeler tout ce qui a été dit, mais peut-être retravailler aujourd'hui à la lumière de cette globalisation et de cette nouvelle donne mondiale quand même, nos propres principes de doctrine sociale.
Je vais peut-être ajouter quelque chose à ce que vient de dire Isabelle dans l'exposition des tensions. qui n'ont pas été assumés dans les propos, enfin, et les éléments doctrinaux que tu as donnés, Grégoire. Et qu'aujourd'hui, on est dans un moment où se séparent deux notions qui ont été articulées pendant une brève période historique à l'échelle de l'histoire, c'est la démocratie et le libéralisme. La démocratie et le libéralisme, on ne peut pas les identifier. Historiquement, ils ont...
Libéralisme économique, là.
Non, libéralisme politique.
Politique.
Le libéralisme politique. Ils ont des matrices différentes et des orientations différentes. La démocratie repose sur un principe d'identité entre gouvernant et gouverné. Et dans la démocratie, qui gouverne? La majorité. Le libéralisme politique, et donc la démocratie, donne le pouvoir à la majorité. Donc c'est un système qui repose sur l'idée de souveraineté absolue de la majorité, légicentrisme, démocratie antique ou chez Rousseau. Le libéralisme, il a un autre objectif. Il naît au XVIIe siècle contre l'absolutisme politique monarchique. Et les libéraux, ils veulent en finir avec l'idée de souveraineté parce qu'elle est dangereuse. Que dit Montesquieu ? Quel que soit le souverain, que ce soit un roi, que ce soit une assemblée ou que ce soit le peuple, le danger est le même. Le pouvoir crée le danger d'abus de pouvoir et la souveraineté en soi est dangereuse. D'où l'idée d'un État qui est divisé contre lui-même et d'un domaine de compétence de l'État qui est limité par l'affirmation de droits naturels et par l'affirmation d'un grand principe, c'est que l'individu précède la société et que la société ne peut donc aller au-delà des droits qui appartiennent à l'individu. Et donc le grand principe du libéralisme, Benjamin Constant le résume dans une belle formule, que l'État se soucie d'être juste, nous nous soucions seuls de notre bonheur. Donc, on demande juste à l'État qu'il devienne un arbitre de l'exercice de la liberté individuelle. Donc, c'est un État procédurier qui ne doit plus défendre une conception de la vérité, une conception du bonheur, qui doit juste faire en sorte que les individus puissent chercher le bonheur comme ils l'entendent et veiller à ce que la liberté de certains n'empiète pas trop sur la liberté d'autres. Donc, d'un côté, exaltation de la souveraineté du peuple, exaltation de la souveraineté de la majorité. De l'autre, exaltation de la liberté de l'individu. Et un État doit être limité. Cela s'est traduit par une orientation, alors, et les démocraties libérales, donc, qui articulent deux principes, une légitimité démocratique et des élections, parce que les élections ne sont pas en soi démocratiques non plus, sont des techniques qui relèvent plutôt de l'aristocratie, hein, en termes de, puisque ce sont des sélections, c'est une sélection des meilleurs. En fait, les démocraties libérales, elles ont un siècle, pas plus. Or, on voit se désarticuler la démocratie et le libéralisme. Une affirmation de démocratie aujourd'hui que l'on trouve dans le populisme, avec une revendication du droit de la majorité d'imposer, de faire la loi. Et l'ambition de faire la loi pour les minorités. Les minorités doivent se soumettre à la majorité, rhétorique typiquement démocratique, que l'on trouve au cœur des mobilisations populistes. On ne peut pas dire que les populistes soient antidémocratiques, réveillent en fait la démocratie brute sans les limites du libéralisme. Donc la démocratie en soi, elle a en elle-même des tendances autoritaires. Et ça, on le sait depuis, ça a été dit depuis longtemps. Mais le libéralisme, lui aussi, peut être autoritaire. Parce que défendre une neutralité de l'État et affirmer que l'intérêt individuel doit précéder ou passer devant l'intérêt collectif, ou que chaque minorité doit avoir son système de valeurs défendu au prix d'un déclassement symbolique de la majorité culturelle qui ne se retrouve d'un point de vue juridique que comme une minorité parmi d'autres, eh bien, ça peut être vécu, et c'est vécu, comme de l'autoritarisme libéral. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dire voilà la démocratie, bon ok, très bien, mais on n'en est plus là. on n'en est plus là, c'est terminé. La démocratie peut être autoritaire, le libéralisme peut être autoritaire, et l'alliance qui maintenait un équilibre intéressant entre démocratie et libéral est en train de se défaire. Et cette alliance se défait parce qu'il y a eu des abus, peut-être des abus de libéralisme, des abus dans le changement social qui parfois a trop brusqué la norme majoritaire. Et donc il faut aussi entendre ça, poser ça, pour ne pas être dans un, je dirais, dans un moralisme décontextualisé. Parce que c'est assez simple de dire démocratie, on en tire immédiatement une rente morale, on a l'air d'être du côté du bien. Je pense que nous allons découvrir de plus en plus que ça n'est pas si simple. Et que les aspirations démocratiques les plus authentiques, par rapport à ce qu'a été la démocratie dans l'histoire, peuvent être aussi très problématiques.
On va peut-être passer la place à la salle ou Grégoire.
Quand même rebondir sur ce que dit Yann, parce que je l'ai dit, mais de manière très rapide. Ce qui est intéressant quand on va rechercher les principes, et c'est pour ça que peut-être que c'est des années 60, mais elles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à nous apprendre. Ces quatre paragraphes de Gaudium et Spes. Pourquoi? Parce que précisément, l'Église n'a pas embrassé la démocratie libérale. Je vous ai dit, dans Gaudium et Spes, on n'emploie même pas le mot démocratie. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les principes, quelles sont les choses. Sur la base de la vision de l'Église qui a toujours été de dire le régime politique, il est en vue du bien commun, et sur une base d'une anthropologie qui ne voit pas l'individu d'abord, quoi, mais qui voit l'individu, pour parler comme Aristote, comme un animal politique, donc d'emblée en communauté et dans une société. Si on part de ces principes anthropologiques que sont le bien commun et la dignité de la personne humaine, du coup, on a cette proposition que fait l'Église qui, de fait, a toujours résisté quand même fortement. Toutes les textes de la doctrine sociale de l'Église sont quand même très forts là-dessus, la résistance au libéralisme quand même, mine de rien, tout en mettant en avant des principes de liberté. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais, ce qui est intéressant, c'est de voir la vision qui est proposée par l'Église depuis Pie XII à Gaudium et Spes et puis à venir après avec le pape François. S'il ne s'agit pas de porter en étendard la démocratie ou pas la démocratie, mais simplement de reconnaître que quand quelqu'un parle d'une démocratie libérale, de la manière dont ça fonctionne en Hongrie, ben, ça pose des problèmes par rapport à nos principes éthiques. Il y a des libertés d'opinion, des libertés d'association qui ne sont pas respectées. Que telle approche de la démocratie libérale, c'est pareil. Et donc c'est pour ça que je vous ai refait une liste d'un certain nombre de principes, quoi. Et que dedans, il y a aussi cette notion de la justice et de quelque chose, d'un état de droit, de choses qui soient mis dans le droit et qu'on respecte et qu'on ne peut pas simplement basculer du jour au lendemain simplement par la force, sont des éléments importants. Donc, de fait, il y a du retravail à faire, quoi. Et effectivement, un des points, je voulais rebondir aussi là-dessus, un des points très intéressants de Fratelli Tutti, c'est justement cette articulation du pape François entre l'universel et le local. Le pape François ne tombe jamais dans ce piège de parler d'une universalité qui serait déconnectée du local. Et donc quand il parle, même dans le chapitre sur les migrants dans Fratelli Tutti, une fois qu'il a rappelé les principes habituels qu'il faut accueillir, etc., etc., après il travaille, mais comment on est à la fois ancré localement, mais sans rester enfermé sur nous-mêmes, et comment on est ouvert à plus large sans se déconnecter du réel. Donc voilà, on a des éléments pour travailler, ça c'est évident.
Une question là-devant, puis on a une derrière.
Jean-Claude Devez, en fait, vous ne nous donnez pas tellement d'éléments pour nous démerder face aux extrémistes dans la prochaine campagne électorale. Comment on va faire? Parce que avec ça, moi, les papes, j'aurais bien aimé que vous les utilisiez pour appeler la culture du dialogue, de la rencontre, du débat. Or, c'est à partir de là, la démocratie, on débat, on va délibérer pour ces élections. Donc comment on prépare les dossiers? Comment on va débattre et délibérer? Et en quoi la culture du débat et du dialogue qui est prônée par l'Église va nous aider? Là-dessus, vous ne nous avez pas beaucoup aidé.
Oui, alors la culture du débat et la culture du dialogue, c'est évidemment à toutes les pages. Il reste à savoir, comment on va créer des lieux qui permettent ce dialogue. Voilà, je crois que la question, l'invitation au débat et à la rencontre, elle est dans toutes les pages quoi, du pape François. Mais comment est-ce qu'on la vit aujourd'hui? Voilà. Comment est-ce que, même dans une assemblée qui est telle que la nôtre, quoi, comment est-ce qu'on va être aussi en mesure de dialoguer et sur quelle base on va dialoguer avec celles et ceux qui ont une autre vision politique. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, on peut que approuver ce que vous venez de dire.
Oui, j'ai une question. Merci beaucoup pour les éléments de réflexion que vous avez apportés. Je ne sais pas si on entend bien. Merci beaucoup. Je vais m'inscrire un petit peu, mais peut-être avec d'autres mots, dans le sens de la question précédente. Au fond, vous avez un petit peu esquivé quand même le titre qui figure au-dessus, élection, les chrétiens face aux extrêmes. Alors c'est vrai que c'est une question difficile, très très radicale. On est dans une situation assez nouvelle par rapport à des élections précédentes. Alors d'ici un an, il peut se passer beaucoup de choses au niveau d'une élection présidentielle, mais on voit qu'au niveau des élections locales, déjà ce type de questions peut se poser. Est-ce que vous pourriez affiner un petit peu les analyses, parce que autant on perçoit bien des différences radicales entre les deux extrêmes, parce qu'il y a vraiment deux extrêmes actuellement, autant il y a aussi des structures de pensée assez homogènes de part et d'autre. Et c'est peut-être une surprise maintenant, des structures de pensée par rapport à différents domaines auxquels on ne s'attendait peut-être pas. Alors c'est une question difficile, hein, on ne va pas demander que faut-il faire, etc. Mais si vous pouviez affiner un petit peu la réflexion sur ce plan, je crois que ce serait intéressant. Merci.
Il veut répondre.
je vais me risquer, même si je suis toujours un peu mal à l'aise d'être dans la prescription, préférant rester dans le recul de l'observateur. Ce qui est plus confortable. Mais effectivement, c'est le titre de la soirée, donc il faut un peu s'y coller. Il a beaucoup été question de théologie. Moi, je crois que dans le débat politique, il faut être d'abord excellent sur la politique. Quand même, sur les dossiers politiques, il y a beaucoup d'approximations qui se disent et qui peuvent être repérées quand on travaille vraiment très finement sur les dossiers. Il y a beaucoup de causalité un peu fantasmé, où c'est toujours la faute des étrangers, par exemple. Et on voit bien que il y a des attitudes. Enfin, il faut, je pense, en politique, porter la complexité. Porter la complexité, porter la précision. Et ça, c'est compliqué aussi parce que pour ça, il faut des médias qui permettent. Je parle des médias de manière générale. C'est-à-dire, il faut des formes de débat, des formes de rencontres qui favorisent cette complexité et évitent d'aller directement au slogan, parce qu'on ne neutralise pas un slogan par un slogan inverse, hein, par une condamnation morale facile. Il faut aller sur les dossiers. Je pense aussi qu'il faut, il est très important de faire entendre des paroles de terrain. On a aujourd'hui une certaine crise de la représentation. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, un certain dégagisme, hein, qui s'exprime. Et ce sentiment qu'ont un certain nombre de catégories qu'ils perdent, de catégories sociales, qu'ils perdent la souveraineté sur leur vie ordinaire et que tout leur échappe, tout est pris dans des canaux de décision sur lesquels ils n'ont plus de prise. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, plutôt que qui est une conséquence d'un état institutionnel, d'un état de l'exercice du politique et qui favorise les extrêmes. Parce que lutter contre les extrêmes, on peut le faire en s'adressant aux extrêmes. On peut le faire aussi en recherchant les causes qui nourrissent les extrêmes et faire l'inventaire de ce sur quoi on peut avoir une prise. C'est probablement ce que chacun peut faire là où il est, et qui déjà permet de restaurer une pratique du politique, peut-être réouvrir un espace pour la modération. Je sais, je suis vague.
Peut-être, ouais, moi j'aurais envie de dire que, effectivement, on ne donne pas de réponse, mais je pense que rien ne serait pire que d'être juste contre les extrêmes. Voilà, c'est ça que je voulais dire, moi, dans mon idée de bien retravailler soi-même les notions. Il faut aussi qu'on soit pour des choses. Il faut aussi qu'on ait une vision positive de ce qu'on veut. Je trouve par exemple les fameux textes qui circulent chaque fois entre les deux tours qui viennent d'associations chrétiennes pour dire qu'il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Pour moi, ça me paraît pas très productif. Finalement, c'est presque trop tard. Je crois qu'il faut déjà faire un travail pour, ça voudrait dire quoi ? Une vision chrétienne de la société. Ça voudrait, comme chrétien, qu'est-ce que moi je peux vouloir pour l'autre et pour le pays ? Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est vague, mais je pense qu'on ne peut pas juste dire « Ah ben non, ça va pas, non, ça va pas ». Après, j'ai pas bien compris quand vous avez parlé de structure de pensée commune.
C'est le rapport à la Russie, par exemple, auquel vous pensiez, où on va voir une certaine, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, une certaine poutinophilie, par exemple.
Je pense que c'est par rapport à beaucoup de choses. Alors, de fait, il y a la Russie, peut-être par rapport à l'étranger aussi. On choisit aussi son étranger. Vous voyez, enfin, le rapport à la représentation populaire, le rapport à la démocratie, il y a finalement, je crois, de part et d'autre. Enfin, il faudrait peut-être nommer plus précisément ces points, mais des homologies, certainement, oui.
Peut-être le point commun de ces deux extrêmes, c'est que, par définition, ils sont dans une vision extrêmement binaire et très clivée.
Bien sûr.
Et c'est vrai que, et d'ailleurs c'est un peu un danger aussi pour le catholicisme quand il va vers ces extrêmes, c'est-à-dire du coup le dialogue n'est plus possible et ils sont dans une vision du monde très simpliste où il y a les bons côtés et les mauvais de l'autre, donc on n'est plus dans le dialogue.
Ça implique certainement un autre rapport aussi, ce sont ce qu'on appelle les deux France aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Les deux types de population, le sentiment d'être déclassé, qui va nourrir davantage un certain radicalisme, etc. quoi. Donc finalement, ça complexifie encore le débat.
Merci. Oui.
Oui. Bonsoir. Moi, ma question porte également sur le titre Élection, les chrétiens face aux extrêmes. La notion d'extrême gauche vient d'être citée à quelques secondes par monsieur à raison de Clésiou, mais ça n'avait pas été le cas de toute la soirée. On a bien perçu la tension pour certains chrétiens et le danger que ça pourrait représenter de voter à l'extrême droite. Est-ce que le fait que l'extrême gauche ait été quasiment pas nommée, est-ce que ça signifie que finalement le vote pour l'extrême gauche ou la tentation de l'extrême gauche par les chrétiens est anecdotique, statistiquement? Donc ma question s'adresse plutôt à Yann Raison de Clésiou et éventuellement pour Vincent de Féligonde. Sinon, pourquoi parler des extrêmes au pluriel alors que visiblement, j'ai l'impression que c'est plutôt l'extrême droite qui avait été mentionnée.
Alors, une petite réponse quantitative. Si on prend l'élection de 2022 parmi les pratiquants réguliers, alors, il y a deux enquêtes, il y en a une de l'IFOP et de l'Ipsos, qui ont des résultats divergents sur le vote pour la France insoumise. D'un côté, 16%, et de l'autre, c'est, si mes souvenirs sont bons, plutôt autour de 10%. Donc, voilà, il y a un certain écart. Mais effectivement, on voit que au sein des gauches catholiques, le vote pour les Verts est faible, 2-4% max. Le vote PS a beaucoup baissé. Et c'est la France insoumise qui attire plus, et qui attire plus, c'est les jeunes. Voilà, quelques tendances que j'ai en tête. Faut-il mettre les extrêmes au même plan ? Non, pas nécessairement, mais je crois que Grégoire Cata en a un peu parlé tout à l'heure. La Après, il y a une question aux organisateurs.
En fait, la question qu'on s'est posée, c'est qu'on s'est dit que, enfin, le fait est que un certain nombre de sondages récemment ont dit qu'il était possible qu'on se trouve dans une configuration au deuxième tour de la présidentielle dans lequel il y aurait un candidat d'extrême droite et que le candidat non d'extrême droite qui l'emporterait serait un candidat d'extrême gauche. Et donc le fait est que c'est une possibilité. Et donc on s'est interrogé, enfin ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pour reprendre ce que disait Yann, traditionnellement l'électorat catholique est un électorat relativement modéré. Donc effectivement, la population catholique est une des populations qui est la plus directement heurtée, si j'ose dire, par l'irruption de l'extrême droite, comme l'a largement décrit Yann, et par l'irruption d'une extrême gauche. Et effectivement, on a parlé du rapport à la Russie, du rapport au libéralisme, à l'état de droit, à un certain nombre de questions qui sont quand même assez ancrées dans les discours des papes quand même depuis au moins Pie XII, qui correspondent pas à ce qu'exprime l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce titre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une question là-bas.
Oui, moi je voudrais reprendre ce qui m'a semblé être un petit débat entre Isabelle de Golemin et Grégoire Cata. Isabelle semblant dire que les repères de la doctrine sociale de l'Église, tels qu'ils existent, tels qu'ils sont fortement ancrés dans toute une tradition, ne sont peut-être plus tout à fait suffisants pour répondre à un malaise ou une inadéquation, à une difficulté qu'une partie de la société catholique éprouve à se sentir à l'aise dans l'époque où nous vivons. C'est ce que j'ai compris. Je voudrais illustrer ma question, parce que c'est une question quand même, par la question des migrations. Et s'il y a bien un domaine où les positions politiques se radicalisent, c'est en même temps un domaine dans lequel beaucoup de catholiques opèrent un glissement de la droite à laquelle ils continuent d'appartenir vers l'extrême droite, sont sensibles à l'analyse de l'extrême droite pour finalement augmenter le flot qui risque de nous emporter aux prochaines présidentielles. Et pourtant, le discours de l'Église, lui, il n'a pas changé. Il est radical, il est très libéral. Si j'écoute notre pape François, ce ne sont que des adjectifs ou des verbes qui sont favorables à une option d'ouverture, d'hospitalité, sans beaucoup de conditions, et j'ajouterais, sans beaucoup de considération pour la réalité des difficultés qui sont nouvelles et qui se rapportent aux transformations du modèle social européen et français, qui n'est pas si facilement que ça adaptable à un changement de nature forte, quantitative, de l'immigration aujourd'hui. D'où ma question, est-ce que le libéralisme de l'Église catholique en matière migratoire ne mériterait pas d'être formulé d'une manière qui prendrait mieux au compte les difficultés réelles de l'accueil, de l'hospitalité, de l'intégration entre le moyen et le court terme? Il y a beaucoup de différences, mais elles ne sont pas sensibles dans le discours de l'Église catholique et du coup, il me semble qu'il y a un décalage qui se fait entre une partie de l'opinion catholique et ce que dit l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église.
Je voudrais donner un petit élément, une autre illustration à ce que vient de dire Jérôme Vignon, si je ne suis pas trop myope. C'est que moi, je fais régulièrement des entretiens comme sociologue avec des catholiques de droite que je suis, pour voir leur évolution, leur pratique. Et ce que j'entends chez un certain nombre d'entre eux, c'est qu'ils entendent le discours de l'Église, qu'ils le respectent, qu'ils ont entendu le discours de François sur les migrants, avec un peu d'agacement quand même. Et ce que je les entends dire, c'est oui, c'est très bien. Dans le meilleur des mondes, et le pape parle sur le plan des principes, mais, et ensuite il y a un mais, avec affirmation, ma conscience, mon contexte, etc. Et comme historien, ces types de rhétoriques me font penser à un autre moment, me font penser à la réception du Manévité. Je sais que je fais un parallèle très curieux, mais c'est aussi un moment où il y a eu des principes affirmés par le magistère très exigeants, et où un certain nombre de catholiques ont dit oui, certes, c'est bien, mais, et ce mais, il doit être écouté. On peut pas juste dire c'est le repli, c'est la dérive identitaire, parce que ce mais, il repose sur l'affirmation du caractère irréductible de la conscience face à des autorités religieuses. Et ça, c'est à prendre en compte, parce que sinon, on le condamne vite avec du moralisme qui ne fait qu'ajouter du discrédit à l'autorité religieuse sans régler les problèmes, comme en 68 avec Humanae Vitae.
Oui, non, ce que je voulais dire, moi, j'ai vraiment pas voulu refaire la doctrine sociale de l'Église, au contraire. Simplement dire que, de fait, il faut l'actualiser, il faut la confronter à la réalité. D'ailleurs, c'est le pape François qui dit que la réalité est plus importante que la doctrine et que la théorie. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui, que ce soit le libéralisme, que ce soit l'universalisme, que ce soit aussi le problème de l'identité ou du nationalisme, qu'il faut revisiter à l'aide de cette doctrine sociale, sans changer la doctrine sociale elle-même, mais il faut arriver à l'actualiser. Et sur les migrations, c'est vrai que il y avait un livre assez intéressant de Marie Grand, que je crois qui d'ailleurs intervient dans La Croix, et sur l'hospitalité inconditionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et en disant attention, parce que l'hospitalité inconditionnelle, ça peut aboutir parfois à ne même pas respecter l'autre, parce qu'on ne le voit même pas dans sa différence culturelle, et donc on minore la difficulté qu'il y aura pour quelqu'un qui vient avec sa propre culture à s'intégrer en France, etc. Et donc il y a une forme presque de colonialisme à l'envers, en fait. C'est-à-dire que finalement on voit pas l'autre dans toute sa complexité. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, la réalité, il faut en tenir compte. Et là, on a un travail à faire. Je pense qu'on a peut-être été un peu paresseux comme catholique pendant beaucoup d'années pour ne pas retravailler toutes ces notions, et qu'il faut aujourd'hui vraiment les retravailler, les revisiter, voir en quoi est-ce qu'elles posent problème aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut répondre, et pas simplement avec des slogans. Mais de fait, le pape ne répond pas avec des slogans non plus, hein, c'est pas du tout ça, mais peut-être que nous, on n'a pas assez travaillé ça. Enfin, moi, c'est un peu ma conviction. C'est-à-dire qu'on n'a pas été assez loin, on a un peu oublié de penser dans le catholicisme, je trouve. En tout cas, le catholicisme français, en tout cas dans le catholicisme social, engagé, etc. Et je pense qu'il faut se remettre à penser, voilà, et penser en fonction d'une situation singulière.
Grégoire, puis ensuite. Oui.
Oui, moi, c'était le premier point, hein, de mon intervention, c'était d'être des rusés de l'Évangile, quoi. Mais des rusés de l'Évangile, quoi. Et quand je citais la parabole du bon samaritain, c'est pas un slogan, quoi. Dans Fratelli Tutti, le pape François nous invite à méditer, à regarder, quoi. Donc à chacun et ensemble de faire cette méditation. Est-ce que ça débouche sur une vision libérale? Je crois pas que ça soit une vision libérale de le discours de l'Église sur les migrants. C'est une conséquence de la méditation de cette parabole. Donc peut-être que ce n'est pas audible aujourd'hui. Voilà, peut-être que c'est pas audible. Eh bien, nous les chrétiens, on continuera à méditer la parabole du bon samaritain, à en tirer les conséquences, et on tiendra, quoi. C'est vrai que moi, la figure qui m'inspire aujourd'hui, quoi, c'est Dietrich Bonhoeffer. Voilà, c'est tout.
Donc Dietrich Bonhoeffer, appelé.
Bah, Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, qui a été pendu au mois d'avril 1945, mais qui toute sa vie a tenu dans un pays où la majorité de l'Église protestante était en collaboration avec le pouvoir nazi. Il a dit, au nom de l'Église, voilà ce qu'on doit faire. Et il n'a pas fait en allant se retirer comme le Paris bénédictin, dans un petit coin isolé. Il a fait un séminaire, de fait, où ils étaient un peu isolés. Mais il était constamment en action dans le monde. et c'est ce qui l'a conduit à devoir livrer sa vie. Et je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, évidemment, hein, c'est une autre position et qu'il faut aussi tenir, mais il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Et pour moi, une partie de ce qu'on dit, évidemment, enfin, je suis dans la doctrine sociale de l'Église, elle nous invite aussi à ça, quoi. Voilà. Quand le pape François met au cœur de Fratelli Tutti la parabole du bon samaritain, c'est pas une vision libérale, c'est pas une vision démocrate, c'est l'Évangile au cœur de ce que nous devons faire.
Bah, là où on peut peut-être se retrouver, c'est de dire que, comme chrétien, on ne peut pas accepter aujourd'hui que des milliers de personnes meurent dans la Méditerranée chaque année. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est de l'indignation. Après, comment on fait? Je pense que là, effectivement, les solutions peuvent être diverses.
Et après, sur comment on fait, il y a quand même une chose qu'on peut faire et qu'on fait tous, c'est aussi d'écouter les acteurs de terrain. Et Dieu sait si dans notre Église, on a un nombre important de gens qui sont au contact et avec des visions et des articulations très nuancées et diverses, quoi. La vision d'un monde sans frontières, c'est pas la vision promue par la majorité des catholiques et encore moins par le magistère de l'Église. Et donc voilà, écoutons ce que les gens du JRS, les gens du Secours catholique, les personnes en précarité ont à dire sur ces questions. Et de fait, on s'en portera sans doute mieux.
Oui.
Je voulais dire simplement que quand le pape est
parlez bien proche du micro.
Quand le pape est venu à Marseille, j'ai entendu toutes les critiques là que vous dites sur les migrants, et j'ai écouté toutes les interventions qu'il a faites à Marseille, autant dans les églises, dans les communautés, que les interventions politiques. Et je regrette, il a bien dit des problèmes que cela suscitait aussi pour une population, avec les trafics, les passeurs, et puis la question de l'identité nationale. Il a évoqué tous ces points. Donc on n'écoute souvent qu'une partie de ce qu'on veut entendre. C'est normal que dans les églises, ils disent qu'il faut accueillir. Hein. S'ils disent le contraire, c'est contraire aussi à l'Évangile, même à la Bible. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors moi, quand j'ai découvert les extrêmes dans les débuts des années 80 à Nantes, je trouvais que c'était basé sur le rejet de l'autre. C'est ça, pour moi, qui caractérise vraiment en premier les extrêmes, c'est ce rejet systématique de certains. Alors, dans l'extrême gauche, il y a aussi des rejets qui varient peut-être selon les moments, hein, mais pour moi, c'est ce qui, en priorité, caractérise les extrêmes. Il me semble, à l'heure actuelle, que dans les églises, le grand souci, c'est de ne plus exister, enfin, dans les églises locales, peut-être pas ici, au centre.
Allez bien dans le micro.
Mais c'est aussi de ne plus exister, donc, le principal souci, c'est la mission annoncée, l'Évangile, et même, j'écoutais sur Arte un responsable des églises évangéliques qui disait qu'ils étaient mieux que les catholiques sur certains points et ils cherchent à faire des petits groupes, si vous voulez, à s'écarter du monde un peu, à faire un monde un peu à part. Voilà. Je trouve que les programmes, souvent, peuvent donner des points de repère sur les partis politiques quand même. Les programmes sont très détaillés quand même avant les élections. Ça vaut le coup de les étudier et de les comparer.
Si.
Merci pour votre intervention. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la part des évêques face aux extrêmes? Et ma deuxième question, c'est j'ai l'impression que alors, ça a déjà été un peu discuté, mais qu'on mettait les extrêmes un peu dans le même panier, entre guillemets, et qu'on n'a pas vraiment étudié la relation extrême face aux chrétiens, et notamment comment une partie de l'extrême droite fait comme une forme de vol d'identité de l'étiquette catholique et est financée pour le faire. Je vais évidemment sortir l'argument ce terrain, qui, je pense, est assez légitime de se poser ce soir. Est-ce que on a en tant que chrétien engagé dans l'Église, se reconnaissant sous cette étiquette-là, avec tout le flou et toute sa diversité qu'elle intègre, des moyens politiques qui sont à la hauteur des moyens financiers qui sont investis dans l'extrême droite.
Non, mais c'est sûr qu'il y a une tentation qui, encore une fois, n'est pas que française, hein, d'un certain nombre de gens à l'extrême droite d'utiliser le christianisme comme un élément d'identité, un christianisme occidental, qui brandissent, du coup, pour défendre une soi-disant civilisation occidentale. Civilisation chrétienne occidentale, en fait, c'est ça, il dit ça. Alors qu'aujourd'hui, le catholicisme, il est quand même essentiellement dans les pays du Sud. Donc, de toute façon, on est en pleine confusion avec cette histoire. Mais c'est vrai que là, je pense que, pour le coup, on doit, nous, être très attentifs à ne pas laisser ces gens-là instrumentaliser le christianisme ou le catholicisme. Et ça, effectivement, c'est hyper important, en disant que le christianisme, enfin, me semble-t-il, c'est pas une identité. Bah, les moyens, c'est vous, c'est nous. C'est de le dire, c'est de le répéter, c'est de se réunir en paroisse, c'est de faire des réunions là-dessus. Enfin, je pense que effectivement le problème, c'est qu'on a d'un côté une institution ecclésiale qui est en crise, avec en plus les abus sexuels, manque de moyens financiers, et de l'autre côté des gens qui ont beaucoup d'argent et qui disent qu'ils vont financer le catholicisme dans une vision idéologique. Donc c'est ça le problème. Mais enfin, quand même, d'abord il y en a encore des moyens. Et puis je pense que c'est vraiment à nous de faire ce travail-là. Et moi, c'est vrai que par rapport aux paroles d'évêques, j'ai un peu changé. Au début, je me scandalisais toujours. Ah, les évêques ne parlent plus, etc. Puis finalement, je me demande s'ils ont à parler. Enfin, moi, j'attends pas que les évêques me disent pour qui voter, honnêtement. Et voilà. Après, ils vont faire leur texte habituel où ils vont rappeler les points de vigilance. Voilà, c'est un premier pas, mais c'est à nous, comme chrétiens, de réfléchir et d'aller plus loin. Et de toute façon, en plus, il y a une forme de pluralisme, on va pas tous voter pareil, y compris dans cette salle. Donc je sais pas sur les évêques, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez, aujourd'hui, assez mitigé, parce que finalement, au nom de quoi ils vont, je crois que c'est aussi à nous, on a les instruments et on a la doctrine sociale de l'Église, on a quand même beaucoup de points de repère nous-mêmes, et je pense qu'on est assez grands nous-mêmes pour, en collectivité, en groupe, etc., réfléchir et se donner nos propres points de repère.
Grégoire ?
Non, j'ai peu à ajouter, parce que c'est exactement la même chose. On n'est plus à une époque où on attend que les évêques nous disent pour qui voter. Et le fait, pour moi, le fait de dire pour qui ne pas voter, ben c'est quand même un petit peu souvent aussi une manière de dire pour qui voter. Donc je suis assez mal à l'aise avec ces choses-là. Et je crois que pour être cohérent avec tout ce que j'ai déjà dit et que nous dit la doctrine sociale de l'Église, on est dans un monde, oui, de fait, on peut attendre de nos pasteurs, quoi, qui nous aident à discerner, qu'ils nous soutiennent dans nos discernements, mais qu'ils fassent pas le travail complètement à notre place. Alors, c'est vrai que je citais le cardinal Lustiger, quoi, dans sa réaction, quoi. Il y a peut-être des moments où on pourrait attendre que collectivement on soit plus capable, et y compris avec les autorités de l'Église, à réagir pour dénoncer, quoi, dire non, là il y a hold-up, là ça va pas. Mais il reste que le gros du travail, quoi, doit passer par d'autres voies. À prendre en compte aussi, évidemment, mais ça, certainement que Yann peut en parler plus que moi, c'est quand on est dans un autre monde, c'est que les évêques peuvent parler, à certains moments ils parlent, quoi. Mais est-ce qu'on les écoute? Qui les écoute? Comment on se fait écouter dans un monde où, de toutes les façons, les choses ont bien changé et que les autorités, quoi, les institutions, quoi, qui ont autorité dans la parole, quoi, ben, ça fonctionne pas tout à fait de la même façon qu'il y a 50 ans, quoi. Donc voilà, le boulot il revient quand même beaucoup à nous, quoi.
Yann ?
Oui, sur les évêques. Mais juste comme observateur déjà, pour ce qui est de l'histoire, très souvent on dit ah mais alors, j'ai longtemps entendu dire oui mais avant il parlait en 2002. Quand Jean-Marie Le Pen...
Allez lire le communiqué, oui, de la conférence des évêques de France entre les deux tours en 2002, quoi. Voilà. Je vais vous faire un petit test à l'aveugle. Je vous mets le texte de 2002 et le texte de 2022 à l'aveugle. Je suis pas sûr que vous les distinguerez les deux. Mais simplement, on était dans un autre moment en 2002. Il faut se rappeler, il y a 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue et puis voilà. Et donc voilà, il y a des choses qu'on retient mais qui sont en fait pas dans les faits.
Exactement. Bon, mais Grégoire, tu m'as volé tout mon effet. Merci. Mais
c'est pour dire que quelquefois aussi, je m'appuie sur choses réelles.
Étant recherchant la source et ayant retrouvé le message, c'était Monseigneur Ricard. Donc tout le monde m'en parlait. Je m'attendais. Voilà. Bon. Il y a des périphrases. Oui, voilà. Non, ça c'est Monseigneur Rouet. C'est Monseigneur Rouet à Poitiers qui avait refusé un baptême d'un militant du Front National parce que la maturité de son cheminement n'était pas suffisante. Et l'argument que Monseigneur Rouet avait utilisé, c'est qu'il y avait un rapport trop idolâtrique à Jean-Marie Le Pen chez ce militant-là. Mais ça, ensuite, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, parce que dans les questions très délicates dans la lutte contre les extrêmes, c'est que je pense à une enquête du CEVIPOF sur les motivations du vote Front National. Et l'immigration était assez haut, mais c'était pas ce qui était plus haut. Et très très haut, il y avait des questions statutaires, c'est-à-dire le fait de ne pas se reconnaître dans les élites politiques, un défaut d'identification, le sentiment d'être ignoré. Bien. Et donc, très souvent, dans les protestations contre les extrêmes, on accroît ce sentiment d'être ignoré en disant « mais c'est des fascistes, c'est des racistes, etc. » Et ce qui est très délicat, c'est que pour commencer à lutter contre les extrêmes, il faut commencer par nouer une relation avec ceux qui les portent et ceux qui votent pour eux. Et cette relation suppose de leur donner de la reconnaissance. Alors pas de la reconnaissance en tant qu'extrême, mais de leur donner une reconnaissance qu'ils ne trouvent pas autrement que dans le vote extrême. Et ça, il y a un art du dialogue, il y a quelque chose là à trouver que ces citoyens ne trouvent pas. Et ça n'est pas en les mettant dans une case, etc., qu'on va apporter une solution au système. Il y avait un entretien récemment avec Félicien Fauric, un sociologue qui a travaillé sur l'FN et qui réagissait sur certaines tactiques utilisées pour lutter contre le Front National. Et entre autres, il disait que ceux qui insistaient sur l'absence de diplôme, enfin le faible niveau d'études de Jordan Bardella, c'était un argument qui, au contraire, jouait en faveur de Jordan Bardella, parce que ça joue sur la séparation entre un « eux » et un « nous », les sachants et puis les petites gens. Et donc, il faut faire très attention. Moi, j'avais été assez scandalisé pendant les législatives, après la dernière présidentielle. Il y avait eu un moment, un peu une ambiance de chasse aux beaufs, hein, entre guillemets, sur les candidats du RN. Et je pense que ça, c'est totalement contre-productif. C'est totalement contre-productif.
Rapidement, parce que...
Ouais, on est... Non, après, je trouve qu'il y a les élections. Et puis, je suis désolé de le dire, mais il y a ce qui va suivre. Et c'est peut-être là que, comme catholique, il faudra qu'on fasse attention et qu'on sache bien pointer... Si l'extrême droite prend le pouvoir, qu'on sache bien pointer ce qui nous semblera insupportable et contre lequel il faudra qu'on s'élève au niveau du droit, au niveau de la politique, de tout ça. Enfin, quand on voit par exemple le côté italien, c'est assez impressionnant parce que finalement, Mélanie, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Il n'y a pas d'opposition. Donc, je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faut se préparer. C'est qu'est-ce qu'on fait après les élections ? Et si on a un régime d'extrême droite comme catholique, comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on parle ? Et comment est-ce qu'on travaille, en fait, pour dénoncer un certain nombre de choses ?
Bon, on passerait la soirée à en parler, mais il est 9h moins le quart, donc je passe la parole à Étienne.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, en premier lieu, au nom des facultés Loyola Paris, je vous souhaite une excellente année 2026, puisque c'est notre première réunion de l'année calendaire, comme l'a fait remarquer Vincent. Le second point que je voulais souligner, c'est que vous avez, à la sortie de cette salle, des flyers qui rappellent l'ensemble des cours et des enseignements que donnent les facultés, qui sont donnés aux facultés Loyola Paris sur la façon de penser le politique. C'est un programme extrêmement intéressant. Enfin, je voulais vous annoncer donc le thème de notre prochaine réunion qui aura lieu le mardi 3 février et qui sera « Retour des impérialismes, faut-il choisir entre la force et le droit ?» Voilà. Je vous remercie et très bonne soirée.